Chapitre 5. Mardi 8 décembre, fin de matinée. Le service médico-légal se trouve dans un immeuble en briques rouges au 5 rue Reitzus, en plein milieu du vaste campus Karolinska, encerclé par de plus grands complexes. Yona Lina contourne l'immeuble fermé, s'arrête et laisse la voiture sur le parking visiteur. En se dirigeant vers l'entrée principale, il passe devant un morceau de pelouse recouvert de givre et une rampe de chargement en acier. Yona s'interroge sur le paradoxe qui entoure le mot « autopsie ». L'origine latine du terme suédois signifie « recouvrir »,« cacher », alors qu'en réalité, c'est tout le contraire. Peut-être a-t-on inconsciemment voulu insister sur l'idée de fermeture une fois que le corps est enfin recousu et que l'intérieur est de nouveau caché au regard. Après s'être annoncé à la jeune femme de l'accueil, il est autorisé à voir Nils Olén, professeur de médecine légale, plus connu sous le nom de l'Aiguille. Le bureau de l'Aiguille est moderne, avec des surfaces nettes blanc laqué et gris clair mat. C'est cossu et design. Les quelques chaises sont en acier brossé, l'assise en cuir tendu blanc. La lumière au-dessus du bureau provient d'une grande plaque en verre suspendue. L'Aiguille serre la main de Yona sans se lever. Il porte un polo blanc sous sa blouse de travail et des lunettes d'aviateur aux montures blanches. Un visage mince et rasé de près, des cheveux gris tondus, des lèvres pâles et un long nez bosselé. « Bonjour », lance-t-il d'une voix sifflante. Une photographie aux couleurs fanées avec quelques-uns de ses collègues est accrochée au mur. Médecin légiste, expert en chimie, en génétique et en odontologie. Tous portent une blouse blanche et ont l'air contents. Ils sont réunis sur un banc autour de quelques obscurs fragments d'os. La légende sous la photo explique qu'il s'agit de la découverte, lors de fouilles, de tombes datant du IXe siècle, situées sur le pourtour de la place du marché de Birka, sur l'île de Birke. « Encore une nouvelle photo ?» dit Yona. « Je suis obligé de les scotcher, » grommelle l'Aiguille. « Dans l'ancien département de pathologie, ils avaient un tableau de 18 mètres carrés. « Bigre, » répond Yona. Peint par Peter Weiss. L'auteur ? L'Aiguille hoche la tête. L'éclat de la lampe de bureau se reflète dans ses lunettes d'aviateur. « Oui, il avait peint un portrait de toute l'équipe dans les années 1940. Un travail de 6 mois, pour lequel il a reçu 600 couronnes, m'a-t-on dit. Mon père se trouve parmi les médecins légistes sur le tableau. Il est en bas à côté de Bertil Falconer. » L'Aiguille penche la tête sur le côté et reporte son attention sur l'ordinateur. « Je suis en train de travailler sur le protocole d'autopsie des meurtres de Tumba, » dit-il lentement. « Carlos m'a téléphoné ce matin pour me mettre la pression. » Yona sourit. « Je sais, » dit-il. L'Aiguille remonte ses lunettes sur le nez. « Il semblerait que la détermination de l'heure du décès soit importante. » Oui. On a besoin de savoir dans quel ordre. » L'Aiguille cherche dans l'ordinateur en pinçant les lèvres. Ce n'est qu'une estimation préliminaire, mais l'homme a été tué en premier. Exactement. Je me suis juste basé sur la température corporelle, dit-il en pointant l'écran. Erickson a dit que les deux lieux, les vestiaires et la maison, avaient la même température. Donc mon hypothèse est que l'homme est mort un peu plus d'une heure avant les deux autres. Tu as changé d'avis depuis ? L'Aiguille secoue la tête et se lève en gémissant. Hernie discale, explique-t-il. Puis il quitte le bureau et commence à descendre le couloir. Yona Lina suit l'Aiguille qui boite lentement en direction du service d'autopsie. Il passe devant une salle obscure, avec une table d'autopsie autonome en inox. Elle ressemble à un évier avec des sections carrées et des rebords tout autour. Il pénètre dans une pièce plus froide, où les corps préalablement examinés au service médico-légal sont conservés dans de grands tiroirs maintenus à une température de 4 degrés. L'Aiguille s'arrête, vérifie le numéro, ouvre un tiroir et s'aperçoit qu'il est vide. Disparu. Sourit-il en reprenant le couloir où des milliers de traces de roulettes ont marqué le sol. Il ouvre une autre porte et la tient pour laisser passer Yona. Il s'arrête dans une salle bien éclairée et peinte à la chaux blanche. Un grand évier est posé contre un mur. De l'eau goutte d'un tuyau orange vif et tombe dans le trou de l'évier. Un corps nu et blafard, parsemé de plaies sombres, est allongé sur la table d'autopsie recouverte de plastique. Katia Eck, constate Yona. Les traits de la femme morte dégagent un calme étrange. Elle a la bouche entrouverte et un regard serein, comme si elle écoutait une belle musique. L'expression du visage tranche avec les larges entailles qui lui lacèrent le front et les joues. Yona laisse son regard parcourir le corps de Katia Eck. Des marbrures ont déjà fait leur apparition autour du cou.
Nous espérons avoir le temps d'effectuer l'examen interne cet après-midi.
Bon.
Quel carnage, soupire Yona. L'autre porte s'ouvre. Un jeune homme au sourire mal assuré entre. Il a plusieurs piercings dans les sourcils et ses cheveux noirs sont rassemblés en une queue de cheval qui descend le long de sa blouse blanche. Avec un demi-sourire, l'aiguille lève un poing à la façon des fans de hard rock. Le jeune homme lui répond aussitôt.
« Je te présente Yona Lina de la Rikskrim, » dit l'aiguille. « Il fait partie de ceux qui viennent nous rendre visite de temps en temps. »
« Fripp, » dit le jeune homme en serrant la main de Yona.
« Il se spécialise dans la médecine légale, » explique l'aiguille.
Fripp enfile une paire de gants en latex et Yona le suit jusqu'à la table d'autopsie où il sent l'odeur putride et froide qui enveloppe la femme.
« C'est celle qui a subi le moins de sévices, » signale l'aiguille, « malgré les multiples entailles et coups de couteau. »
Ils observent la femme morte. Le corps est couvert de plaies plus ou moins étendues.
En outre, à la différence des deux autres, elle n'a été ni mutilée ni dépecée, poursuit-il. La cause directe du décès n'est pas due aux plaies dans le cou, mais à celle-ci, qui va droit au cœur, d'après la tomodensitométrie.
Mais c'est un peu difficile d'apercevoir les saignements sur les images, explique Fripp.
« On le vérifiera évidemment quand on l'ouvrira, » dit l'aiguille à Yona.
« Elle s'est débattue, » dit Yona.
« Mon avis, à en juger par les plaies dans les paumes, c'est qu'elle s'est d'abord défendue activement, » répond l'aiguille, « mais qu'ensuite, elle a essayé de s'échapper pour se protéger. »
Le jeune médecin regarde l'aiguille.
« Observez les plaies à la face externe des bras, » dit l'aiguille.
« Blessure de défense, » marmonne Yona.
« Exactement. »
Yona se penche en avant et étudie les taches jaunâtres visibles dans les yeux ouverts de la femme.
« Tu regardes les soleils ?»«
Oui. » »«
On ne les voit que quelques heures après la mort. Parfois, ça peut prendre des jours, » dit l'aiguille. « Ils finissent par devenir tout noirs. C'est dû à une baisse de pression dans l'œil. »
L'aiguille prend un marteau à réflexe sur une étagère et exhorte Fripp à vérifier si le mouvement idiomusculaire persiste. Le jeune médecin tape au milieu du biceps de la femme et sent le muscle avec les doigts pour distinguer des contractions.
« Minime maintenant, » dit-il à Yona. « En général, ça cesse au bout de 13 heures, » explique l'aiguille.
« Les morts ne sont pas tout à fait morts, » dit Yona,
qui frémit en devinant un mouvement fantomatique dans le bras mou de Katia Eck.
« Mortui vivos docent. Les morts enseignent aux vivants, » répond l'aiguille en souriant pour lui-même, tandis que Fripp et lui retournent le corps.
Il indique les marbrures roussâtres sur les fessiers, la colonne vertébrale, les omoplates et les bras.
« L'hypostase est faible quand la victime a perdu beaucoup de sang. »
« Évidemment, » dit Yona.
« Le sang, c'est lourd, et quand on meurt, il n'y a plus de système de pression interne, » explique-t-il à Fripp. « C'est peut-être une évidence, mais le sang descend et s'accumule tout simplement aux endroits les plus bas. Généralement, il devient visible sur les parties du corps qui ont été en contact avec une surface extérieure. »
Avec le pouce, il appuie sur une tache au mollet droit jusqu'à ce qu'elle disparaisse quasiment.
« Oui, tu vois ?» On peut les enlever par pression jusqu'à 24 heures après le décès.
Mais il me semble avoir vu des taches sur les hanches et la poitrine, dit Yona d'une voix hésitante.
Bravo, dit l'aiguille en le regardant avec un sourire légèrement étonné. Je ne pensais pas que tu t'en apercevrais.
Donc, elle a été allongée morte sur le ventre avant d'être retournée, dit Yona avec une raideur toute finlandaise dans la voix.
À mon avis, pendant 2 heures.
Alors l'assassin est resté pendant 2 heures, s'interroge Yona. Ou alors, lui ou quelqu'un d'autre est revenu sur la scène du crime et l'a retourné.
L'aiguille hausse les épaules.
Je suis encore loin d'avoir terminé mon évaluation.
Je peux te demander quelque chose. J'ai remarqué que l'une des plaies sur le ventre ressemble à une cicatrice de césarienne.
Césarienne, sourit l'aiguille. Pourquoi pas? On y jette un œil?
Les deux médecins retournent de nouveau le corps.
Tu veux dire celle-ci?
L'aiguille désigne une grande entaille partant du nombril et descendant sur 15 centimètres.
Oui, répond Yona. Je n'ai pas encore eu l'occasion d'examiner chaque blessure. Vulnera incisa, dit Fripp.
Oui, ça semble être une incision, comme on dit, explique l'aiguille.
Et non un coup de couteau, dit Yona.
À en juger par la forme linéaire et régulière et dans la mesure où la surface de la peau autour est intacte.
L'aiguille touche la plaie du doigt et Fripp se penche pour voir.
Ouais. Les parois, poursuit l'aiguille, elles ne sont pas particulièrement imbibées de sang, mais...
Il se tait soudain.
Qu'y a-t-il ? Demande Yona.
L'aiguille lui adresse un regard étrange.
Cette incision a été pratiquée post-mortem, dit-il.
Il se débarrasse de ses gants.
Il faut que je regarde la tomodensitométrie, dit-il en ouvrant avec empressement l'ordinateur posé sur la table près de la porte.
Il pianote parmi les images tridimensionnelles, s'arrête, poursuit, change d'angle.
La plaie semble pénétrer l'utérus, chuchote-t-il. Elle semble suivre les anciennes cicatrices.
Ancienne? De quoi parles-tu? Demande Yona.
Tu n'as pas remarqué? Dit l'aiguille en revenant près du corps. Une cicatrice de césarienne en urgence.
Il désigne la plaie verticale. Yona regarde de plus près et s'aperçoit qu'une vieille cicatrice rose pâle, laissée par une ancienne césarienne, dépasse d'un côté.
Mais elle n'était pas enceinte? Demande Yona.
Non,
dit l'aiguille en remontant ses lunettes d'aviateur sur son nez.
A-t-on affaire à un meurtrier qui a des compétences chirurgicales? Demande Yona.
L'aiguille secoue la tête et Yona se dit que quelqu'un a assassiné Katia Eck dans une frénésie de violence et de rage. Il est revenu 2 heures plus tard, l'a retournée sur le dos et a rouvert sa vieille cicatrice de césarienne.
Vérifie s'il y a des choses semblables sur les autres corps.
On met la priorité sur ça?
Demande l'aiguille.
Je pense, répond Yona.
Tu hésites?
Non.
Mais tu voudrais qu'on donne priorité à tout, dit l'aiguille.
Plus ou moins, dit Yona en souriant avant de quitter la pièce.
Il se met à frissonner en s'installant dans sa voiture. Il démarre, prend la rue Redius, augmente le chauffage et compose le numéro du procureur Jens Svanehjelm.
Svanehjelm.
Yona Lina à l'appareil.
Bonjour. Je viens d'avoir Carlos. Il disait que tu allais m'appeler.
C'est un peu difficile d'expliquer de quoi il retourne, dit Yona.
Tu es en voiture?
Je sors à l'instant du service médico-légal et je pensais passer à l'hôpital. Il faut vraiment que je parle avec la victime qui a survécu.
Carlos m'a expliqué la situation. Il faut faire vite. Est-ce que l'équipe de profileurs a commencé à travailler?
Un profilage criminel ne suffira pas.
Non, je sais, je suis de ton avis. Si on veut avoir une chance de protéger la sœur aînée, il faut qu'on parle avec le garçon, un point c'est tout.
Yona voit soudain un feu d'artifice exploser sans un bruit. Une étoile bleue pâle au loin, au-dessus des toits de Stockholm.
Je suis en contact avec... poursuit Yona en se raclant la gorge. Je suis en contact avec Suzanne Granat, des services sociaux. Et je pensais prendre avec moi Eric Maria Bark, le psychiatre expert dans le traitement des chocs et traumas aigus.
C'est d'accord,
le rassure Jens.
Dans ce cas, je me rends directement au service de neurochirurgie.
Bonne idée.